Aujourd'hui, L'Écume des Pages s'associe au festival Mode d'Emploi et vous propose une échappée aux côtés du philosophe Thierry Hoquet autour de son dernier livre Sexus Nullus, où ce dernier s'interroge notamment sur les rapports de genre qui régissent notre société. C'est Anne-Sophie Claire qui va partir à sa rencontre. Bonne écoute à tous.
Oui, je crois que bon, un jour peut-être je n'écrirai pas, mais je sais que je lirai toujours à moins de ne plus pouvoir voir.
Bonsoir à tous, merci d'être venus à cette rencontre avec Thierry Hoquet.
Bonsoir Thierry Hoquet,
merci
d'être venu. Thierry Hoquet, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un philosophe spécialiste des sciences naturelles et de la philosophie des Lumières. Il est aussi professeur en philosophie des sciences à Lyon 3 et également auteur. Dernièrement, il a publié un livre qui s'appelle Sexus Nullus ou l'égalité, dont on va parler ce soir aux éditions Exprime. Dans ce livre, pour faire un bref résumé, ça raconte l'histoire d'un personnage, Ulysse Rivneuve, qui se présente aux élections présidentielles en France, avec pour seul programme l'effacement de la mention du sexe, féminin ou masculin, sur les cartes d'identité françaises. Parce que pour lui, ça résoudrait beaucoup de problèmes d'inégalité dans la société. Thierry Hoquet, vous avez choisi un passage que vous vouliez nous lire.
Alors c'est dans le texte, en fait, il y a des niveaux de discours différents. Il y a des discours qui sont proposés par le candidat lors de sa campagne électorale. Il y a des passages plus narratifs. Donc j'ai choisi un discours. Donc c'est le discours du 13 juillet qui s'appelle « Manifeste unisexe ». Quelque chose m'intrigue. Pourquoi les personnes entichées de religion sont-elles les plus attachées à la différence entre les hommes et les femmes et les hommes ? La première préoccupation des religions est apparemment que chacun occupe sa juste place sexuelle. Je les croyais attachées au salut de l'âme. L'âme aurait-elle un sexe ? On pourrait le croire au vu des manifestations anti-mariage pour tous de 2013, des crispations autour du voile dans les années 1990, développé en anathème contre le voile intégral, le niqab et le foulard. Et tous ces garçons qui prétendent protéger la pudeur de leur sœur, tous ces queutards qui exigent la virginité de leur épouse quand la leur est perdue depuis longtemps, tous ces conservateurs qui prétendent enrégimenter les manières de vivre, au motif que seuls sauraient ce qui est bien. Platon disait que les individus qui se seraient mal tenus pendant leur vie se réincarneraient en porc. Les individus qu'on voit aujourd'hui vivre dans un corps de femme, quels crimes ont-ils commis dans une vie antérieure qu'il leur faudrait expier par un redoublement de sainteté et de souffrance dans leur vie actuelle ici-bas ? La société matérialiste ne me paraît pas moins obsédée par le sexe des individus. Les sexes sont marqués par les modes, le maquillage, le string, le rouge à lèvres, la pornographie. Non, personne ne nie la différence des sexes, les matérialistes pas plus que les religieux, si bien que les féministes ont toujours dû se battre contre les pouvoirs patriarcaux de quelque bord qu'ils soient, le conservatisme et de tous les partis et de toutes les confessions. Une inquiétude monte. Dès lors qu'on ne marquera plus les sexes, l'uniformisation régnera, redoute-t-on. En réalité, l'effacement des sexes de l'état civil fera surgir mille différences. Mille et mille différences qui ne seront plus rabattues sur une dualité qui, si elle a bien une signification biologique, la reproduction, n'autorise pas à classifier les individus humains. L'humanité est une espèce antiphysique, biologique dans son origine, mais culturelle dans sa vie, son histoire, ses modes d'organisation. Il n'y a pas d'humain nu, il y a des phénomènes biologiques que l'on peut et doit comprendre. Nul ne doute, qu'il faille deux gamètes, un ovule et un spermatozoïde pour faire un enfant, mais ces connaissances biologiques nous sont indifférentes dès lors qu'il s'agit de régler nos usages. Pourquoi ? Quand il s'agit du sexe, veut-on s'en remettre à la nature ? Dans la nature, il n'y a ni tribunaux, ni musées, ni palais, ni prisons, et cela n'empêche pas les humains d'en bâtir. Pourquoi la même liberté, la même souveraine indépendance ne nous serait-elle pas permise relativement au sexe ? Peu importe ce qui se passe dans la nature, il nous revient de construire le monde humain, un monde de beauté, de justice et de liberté. Alors que le sexe humain est un organe biologique, les sociétés humaines l'érigent en institution. Nous proposons plutôt d'instituer une société indifférente au sexe, une société unisexe qui chatoiera de mille et mille couleurs. Voilà.
Merci. Alors tout d'abord, je voulais vous demander pourquoi ce titre, Sexus Nullus ou l'égalité ?
Sexus Nullus, c'est une expression qu'on trouve chez saint Augustin, qui écrit donc « Quand l'âme, il n'est pas de sexe ». Donc l'idée, c'était la suivante, c'est de s'intéresser à ce qui fait de nous des êtres humains, et donc en quoi le sexe est-il déterminant, au même titre que d'autres composantes de l'identité, comme identifiant pour nous les êtres humains. Donc en quoi est-ce que le fait que l'on soit humain est affecté par l'étiquette sexe ? Bon, il y a des passages également dans saint Paul où il est dit que ce qui intéresse le christianisme, c'est les humains, et non pas savoir s'ils sont juifs ou pas juifs, hommes ou femmes, etc. C'est pas ça qui importe, c'est l'humanité. Donc c'était une manière de présenter cette idée de l'effacement des sexes, puisque c'est de ça dont il s'agit, effacer les sexes de l'état civil, de présenter cette idée d'une manière qui ne soit pas uniquement négative. On va se priver de quelque chose, mais montrer qu'en se privant de ça, de cette étiquette-là, on rejoignait quelque chose de plus grand, de plus vaste, qui est donc notre appartenance humaine. Donc c'est tout ça que ce titre essaye de dire.
Et justement, comment ça vous est venu, cette idée de l'effacement du sexe à l'état civil ?
Bon, c'est une idée qui court. C'est pas une idée qui fait les gros titres. C'est pas une idée qui est portée par les pouvoirs politiques, mais c'est une idée qui court. C'est une idée qui est revendiquée par les mouvements intersexes. C'est une idée qu'on voit émerger de ci, de là, dans les milieux féministes. Pourquoi le numéro de sécurité sociale commencerait par 1 ou 2 ? Est-ce qu'on peut pas abolir ça ? Voilà. Donc c'est pas une idée qui est vocalisée de manière puissante, mais c'est une idée qu'on entend, qui circule. Donc mon projet en tout cas en reprenant cette idée, c'était de lui donner consistance. C'était de donner consistance à un rêve, c'est-à-dire de faire en sorte que une sorte de position politique ultra minoritaire ou bien une discussion au café à 3h du matin, un propos de table, pouvait prendre consistance. Et donc l'idée, c'était d'abord de me convaincre moi-même, de voir si c'était réalisable et ce qu'on gagnerait. Donc après, la difficulté, ça a été d'en faire une fiction, c'est-à-dire de faire en sorte que justement ce travail argumentatif soit habité par une histoire. Et donc qu'il y ait quelque chose qui se passe qui fait que c'est pas juste des arguments les uns après les autres, mais on a envie d'y croire et d'être emporté par un mouvement qui conduit donc à, je peux pas le dire, à l'élection triomphale du candidat, voilà.
Oui, parce que c'est un livre un peu hybride, c'est à la fois un essai et une sorte de roman, une fiction.
Ouais. Alors ça rejoint votre question sur le titre aussi, Sexus Nullus ou l'égalité, c'est un clin d'œil aussi au titre des contes de Voltaire. Donc la forme que j'ai voulu donner à ce texte, c'est celle du conte philosophique. C'est-à-dire, plutôt que d'écrire un essai où je me poserai en philosophe qui a des avis autorisés sur quantité de questions, parce que j'ai passé des diplômes de philosophie à l'université, bon, plutôt que de jouer cette carte-là, j'ai préféré quelque chose où on pouvait essayer d'alléger la chape de plomb dans laquelle on vit, de la soulever un petit peu en imaginant un monde qui n'a rien de plausible. Et du coup, c'est le grand écart dans lequel je suis, c'est-à-dire j'écris une fiction, c'est-à-dire quelque chose où on dit, voilà, imaginons un monde où on proposerait ça, et où tout se passerait bien, parce qu'en fait, on se rendrait compte que ça ne crée pas de problème, et puis finalement, les humains sont de bonne volonté. Donc j'écris ça, et puis ensuite, pour que le débat soit intéressant, il faut que j'y croie vraiment, c'est-à-dire que je vienne devant vous et que je dise, voilà, ce qu'il faut faire, c'est effacer le sexe de l'état civil, après tout le monde s'en sortira beaucoup mieux, pas seulement les personnes intersexes, les transsexuels, les gays, les lesbiennes, vous pouvez imaginer des marginalités, mais également l'ensemble des hommes et des femmes dans la société va voir ses rapports transformés. C'est l'ensemble de la société qui s'en trouvera mieux. Et donc, ce que nous allons faire après, c'est pas seulement une signature, c'est nous allons prendre engagement pour former des comités Sexus Nullus dans tous les départements, dans toutes les provinces. Hein, et nous allons noyauter la société pour faire avancer cette idée, parce que nous sommes tenus de croire que c'est vraiment comme ça qu'on va s'en sortir et que c'est très important qu'on le réalise. Donc je durcis la chose, mais c'est le grand écart que je suis obligé de faire, voilà. Mettre en scène une fiction, c'est-à-dire une sorte de légèreté, et puis en même temps, à un moment, il faut qu'il y ait une voix derrière, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle, sinon ça amuse, mais on l'oublie aussitôt. Donc c'est pas une fiction sur n'importe quoi, c'est pas une fiction sur moi, c'est une fiction politique, donc c'est une fiction qui m'engage et qui engage aussi les personnes qui le lisent. C'est un appel à prendre position sur la question de la différence des sexes, sur la place qu'on fait à cette question dans la société, dans des moments aussi anodins que les toilettes publiques, ou bien à l'école, ou bien dans la vie politique à tous les niveaux.
Et comment vous résumeriez le problème avec le système binaire des sexes ?
On peut le prendre de plusieurs façons. D'abord, on peut dire que tout le monde n'y trouve pas sa place. Ça, c'est la première chose. On peut l'alléger. C'est ce qui s'est passé il y a quelques temps, avec le mi-octobre, avec le jugement qui a été rendu à Tours. C'est pas allégé, mais ça travaille, en tout cas. On voit que ça travaille. Ensuite, plus généralement, puisque je dis que l'enjeu général, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes, en fait. Le problème que je vois là-dedans, c'est que aujourd'hui, cette égalité, on prétend l'atteindre en mettant en avant des politiques qui sont définies comme des politiques de parité. On voit leurs effets à tous les niveaux de la société, on voit que c'est très important, on fait en sorte que la représentation de la nation, par exemple, soit à égalité de femmes et d'hommes, et on voit toutes les résistances que ça rencontre. On s'interroge sur comment féminiser certaines professions, comment masculiniser d'autres, etc. Mais tout ça, ça s'intéresse aux pratiques des adultes. Donc, pour moi, ça vient trop tard. C'est très intéressant, très utile, mais ça vient trop tard. Pourquoi ? Parce que la socialisation, parce que la constitution psychique des individus, elle se joue, j'avais envie de dire, dès avant la naissance. Mais en tout cas, elle se joue pendant toute l'éducation, pendant toute l'enfance. Et c'est là que, à mon sens, on opère une sorte de partition des individus, hein, qui est, je crois, aujourd'hui marquée à un stade, qui n'était pas le cas il y a 30 ans. Enfin, il me semble que ça ne s'allège pas du tout, ça se renforce, hein, avec le bleu, le rose, des layettes. Enfin, c'est la première manifestation de ça, mais ensuite, tout est régi sur ce mode-là, les jouets, qui fait que on apprend aux enfants, en fait, non pas à être des humains, mais à être des garçons et des filles. Et en tant que éducateur d'un enfant, j'ai pris ça de plein fouet, en fait. Donc c'est aussi ça qui m'a engagé dans ce projet, c'est-à-dire c'est l'idée comment on élève les enfants. Et c'est là, à mon sens, que le binarisme, il est le plus asséchant et le plus appauvrissant. C'est quoi cette mythologie des princesses et des pirates ou des guerriers ? Pour moi, c'est un truc atterrant, en fait. C'est-à-dire, je vois les effets que ça peut produire. Hein. Je vois ma petite fille qui adore être une princesse, mettre des bijoux. Mais j'ai vu aussi tous les adultes qui l'ont accablée de ces choses-là. Et je me suis à chaque fois dit qu'on lui, chaque fois qu'on lui offrait un diadème, un sac à main, une poupée, chaque fois qu'on lui offrait ça, je me disais, mais à quel moment est-ce qu'on élève nos enfants à la nature, à l'espace, à aux arts, aux... voilà. Pourquoi est-ce qu'on considère que pour leur structuration psychique, c'est tellement déterminant qu'ils soient des garçons et des filles avant d'être des êtres humains, en fait? C'est ce problème-là, en fait, que j'ai rencontré, et je me suis dit, ça serait quoi, finalement, un monde où, bien sûr, il n'y aurait plus, vous avez dit, d'état civil sur les papiers d'identité, mais avant tout, il n'y aurait plus d'état civil sur les actes de naissance. C'est-à-dire où on n'aurait pas un garçon ou une fille, mais où on aurait un enfant. Voilà. Où on se donnerait le temps d'avoir un enfant, en fait. C'est la question, peut-être, première. Et à partir de là, ce que ces enfants deviendront, c'est une question ouverte, mais voilà, se donner le temps d'avoir des enfants, se donner le temps à nous d'être des parents, par exemple, au lieu d'être le papa ou la maman, c'est-à-dire l'autorité et l'amour soignant, enfin voilà. Et donc, mettre en avant nos caractéristiques humaines plus que cette fétichisation de la dimension sexuée des individus dès avant la naissance.
Je me demandais aussi comment vous en étiez arrivé à vous intéresser à la question du genre et si vous aviez eu des influences dans ce domaine.
Être sous influence. En fait, j'ai rencontré la question du genre par le travail sur la manière dont la biologie raconte la différence des sexes. C'est un travail que je mène depuis plusieurs années sur la manière dont, en biologie, on explique la différence des sexes. Aussi bien au niveau des chromosomes, des hormones, tout le travail qui a été fait là-dessus, en biologie, mais aussi dans les critiques féministes qui ont été adressées à cette science. Quand je dis critiques féministes, c'est la dénonciation des biais, des préjugés, des effets de ces discours en société, mais aussi la manière dont, si on est informé justement d'un peu de conscience féministe, comment est-ce que ça peut transformer la science et produire une science qui serait moins biaisée, qui serait meilleure, etc. Donc ça fait plusieurs années que je travaille sur ces questions-là, et c'est par là que j'ai accroché à la question du genre. Mais je l'ai abordé par la question du sexe. Donc, c'est-à-dire, ce que j'ai rencontré, c'est... J'avais l'impression qu'il y avait un monde un peu à double culture, avec d'un côté des études sur le genre qui sont très intéressantes et qui constituent un monde en soi, avec ses colloques, ses congrès, ses discussions, ses débats, ses références obligées ou pas. Voilà. Et puis de l'autre côté, des biologistes qui naturalisaient à outrance sur la différence des sexes, qui dissertaient sur la différence des sexes, qui assignaient tous les comportements, si ce n'est aux gènes, du moins aux hormones, qui imprègnent les corps, etc. Donc j'avais l'impression qu'il y avait deux cultures qui s'ignoraient complètement, et que mon travail en tant que philosophe, c'était précisément de faire le pont entre ces deux discours, et d'essayer de comprendre en fait ce qui se jouait de part et d'autre, pour éviter le clivage tel qu'on l'a rencontré, notamment au moment du débat sur l'introduction des questions de genre dans les manuels de biologie en première, ces clivages récurrents qui sont en fait liés au fait que du côté de part et d'autre, on ignore ce qui se dit, on ignore les concepts et donc je crois qu'il est important d'avoir cette double culture, biologie et genre, pour faire en sorte que les pièces du puzzle se mettent en place. De comprendre ce dont on parle quand on parle de sexe, par exemple. Et quand on essaye de compter les sexes, quand Anne Fausto Sterling dit qu'il n'y a pas deux sexes, mais cinq sexes, par exemple, qu'est-ce qu'elle veut dire? Et en quoi est-ce que ça a un sens? Pourquoi est-ce que ça a un sens pour les biologistes? Est-ce que ça en a un pour eux, et de quelle manière? C'est-à-dire, de quoi parlent les uns et les autres quand ils parlent de sexe? Ça a été la question qui m'a accroché en tant que philosophe des sciences sur cette interface entre nature et société, peut-être.
C'est intéressant, justement, ce travail à la fois biologique et sur le genre, parce qu'on sent dans votre livre parfois une certaine méfiance envers le corps médical ou psychanalytique. Est-ce que vous pensez que ces domaines entravent la liberté des êtres en voulant les mettre à tout prix dans des cases, parfois?
Je suis passé assez vite sur la psychanalyse. Mmh. C'est-à-dire, je les ai un peu caricaturés comme un discours qui voudrait que chacun trouve sa place. Et donc, je les considérais qu'en fait, les psys en particulier auraient beaucoup de mal à entendre cette idée. Donc, contrairement, je suis allé jusqu'à convaincre les différentes religions monothéistes de la pertinence de cette proposition, mais je ne suis pas allé jusqu'à convaincre les psys. Je les ai maintenus dans une sorte de distance ironique et un peu caricaturale parce que, disons, peut-être c'est ce qui m'a marqué dans cette affaire, c'était les débats qui ont eu lieu surtout au moment du Pax, en fait, où il y avait cette question de l'ordre symbolique avait été mise en avant de manière très, très virulente et un peu vociférante, l'ordre symbolique qu'il fallait à tout prix préserver. Et peut-être c'est ça qui m'a découragé. Mais disons que je pense qu'une théorie qui veut que chacun trouve sa place par rapport à papa et maman, elle va avoir du mal à entendre mon discours. Voilà. Je suis prêt à en débattre et à travailler dessus plus avant, mais voilà en tout cas la manière dont c'est abordé.
Est-ce que vous avez eu besoin de beaucoup de préparation pour écrire le livre ? Étant donné que votre héros veut convaincre toutes les sphères sociales, il a fallu trouver des arguments pour chacun ?
Là, c'est le côté un peu... vous insistez sur le côté fastidieux un peu de l'affaire. C'est-à-dire, en effet...
C'est un exercice, c'est se mettre dans la peau de chaque personne, en fait.
Oui, c'est un exercice. C'est-à-dire, il fallait trouver des moyens par lesquels... une idée dont personne ne parle pouvait devenir l'enjeu d'un débat public général. Donc il fallait que chacun finalement trouve intérêt à cette question. Donc peut-être la première catégorie importante qu'il fallait convaincre de l'intérêt de cette proposition, ben, c'était les femmes. Puisque quand on parle de l'égalité des sexes, en fait, ce qu'on veut faire, c'est permettre d'abord aux femmes d'avoir plus de possibilités de carrière, d'épanouissement, de vie, en fait. Donc, il fallait dialoguer avec les féminismes au pluriel pour essayer de voir ce qui pouvait intéresser les femmes dans cette affaire. Deuxième catégorie à convaincre, c'était les hommes. Là, j'avoue, j'y suis pas arrivé, en fait. C'est-à-dire, dans mon histoire, les virilistes ne se rendent jamais. Les virilistes ne se rendent jamais, considèrent que cette affaire les dépasse, en fait. Donc, il y a un moment où la société, finalement, doit basculer et où il faut choisir avec qui on veut s'allier. Donc, c'est une approche très pragmatique de la manière dont un mouvement ou une cause peut l'emporter dans un débat public. Il ne s'agit pas d'être tous absolument d'accord sur le fond, mais il s'agit de voir finalement avec qui est-ce qu'on préfère s'allier dans cette affaire. Et en l'occurrence, les défenseurs arc-boutés sur la différence des sexes, ils représentent... un peu, disons, les forces les plus archaïques de la société, et ce qu'ils brandissent, c'est cette idée que si on attente en quoi que ce soit à la différence des sexes, c'est-à-dire si on essaye de la faire fonctionner comme, non pas comme un carcan, mais comme une grille amusante avec laquelle on peut jouer, dès lors qu'on fait ça, la société va s'écrouler et les individus vont être voués à la folie. Donc, c'est ce discours-là que j'essaye de démonter en essayant de faire place à une autre voix, c'est-à-dire un autre regard, une sorte de pied de nez, en fait. Ce livre-là, je l'ai aussi écrit comme un pied de nez à la réaction qui a eu lieu lors des débats sur le mariage pour tous. Donc, C'est ça, c'était... Voilà. Alors, je suis professeur de philosophie. Il se passe dans mon pays des choses très surprenantes. Ça n'en finit pas. Hein. On est, très surprenantes et pour lesquelles... j'ai pas d'armes particulières, moi. Donc, ma manière de combattre, c'est de proposer des idées. Et donc, à ce moment-là, je peux faire plusieurs choses. Je peux prendre les idées de manière très grave. Je peux prendre un air martial, justement, et dire le terrorisme doit être combattu. Et là, tout le monde sera immédiatement d'accord avec moi. Mais je peux aussi... user de ma position, qui n'est pas une position justement de premier ministre, de personne qui a un pouvoir quelconque dans la société, je suis juste un petit professeur de philosophie. Voilà. C'est tout petit. Et à partir de là, dire, ben, mon jeu, ça va être de jouer la provocation.
C'était important pour vous justement qu'il y ait cette double dimension militante et humoristique à la fois ?
L'humour ici, c'était ce qui permettait de respirer en fait. Qui permet de respirer, c'est-à-dire ce qui permet aussi de des facilités, ce qui permet de quand je dis ça permet des facilités, ça veut dire ça permet parfois de renvoyer quelqu'un en quelques lignes. Voilà, parce que c'est ça aussi qu'on a envie de dire. Tous les arguments n'ont pas à être analysés, décryptés, répondus un à un. En fait, parfois on peut aussi aller plus vite en besogne sur voilà, on n'a pas forcément toujours envie de répondre à tout le monde, voilà. Donc l'humour c'était ça, et puis l'humour c'était une manière de dire j'ai pas peur en fait, j'ai pas peur et je vous défie, voilà.
Donc dans votre livre vous dépeignez les coulisses d'une campagne électorale avec son hypocrisie et ses stratégies. En quoi ça vous a inspiré, ce milieu-là ?
J'ai l'impression qu'on vit dans un monde de communication. J'ai l'impression qu'on vit dans un monde qui est truffé par des éléments de langage. Voilà. Et sans doute, quand on est en posture de responsabilité, on doit en passer par des éléments de langage. C'est-à-dire, on doit faire attention aux moindres mots qu'on dit, parce que on voit que certains dérapages, sont-ils intentionnels ou non, etc., mènent immédiatement des individus aux marges. Alors certains se sont fait un art du dérapage qui est un peu leur image de fabrique, hein. Bon, la race blanche, etc. Moi, je n'ai pas à prononcer d'éléments de langage. Comme je l'ai dit, je suis juste un petit professeur de philosophie qui sert à rien en fait. Qui n'a pas d'aura. Je ne suis pas un leader d'opinion. Donc...
Peut-être avec ce livre, ça a marché.
Oui, c'est très gentil d'être là. Hein. Je suis très content qu'on puisse débattre ensemble et discuter. Mais bon, l'idée, le problème principal avec cette histoire, c'est qu'on se dit, en fait, c'est très touchant qu'on soit là, en fait, ce soir, ensemble, pour parler de la différence des sexes. Parce que... quand on ces questions-là, on a l'impression que c'est des questions qui passent immédiatement au second plan dès qu'un autre problème émerge. C'est très problématique. C'est-à-dire, ça va pas résoudre la crise grecque, mon affaire. Ça va pas résoudre le problème de donc Daesh, etc. Donc en fait, c'est un discours extrêmement fragile et faible, celui qui parle de la différence des sexes et qui dit, en fait. Si on essayait de repenser cette question, peut-être le monde serait différent. Donc, je dis, c'est la première question qui est évacuée dès que le moindre autre problème arrive. Hein, et en même temps, c'est peut-être la question la plus centrale parce que c'est la question de l'éducation, c'est la question des rapports entre les êtres humains. Voilà, donc il y a quelque chose de fondamental qui se joue autour de la manière dont une société organise les rapports entre les individus. Voilà. Donc, en apparence, la question la plus vaine, et en même temps, peut-être la question la plus fondamentale.
Voilà. Pour Ulysse Rivneuf, votre héros, le français reste encore aujourd'hui une langue sexiste. Et vous, vous adoptez justement une façon d'écrire qui essaie de rendre notre langue plus égalitaire. Est-ce que vous pourriez nous en parler ?
Bon, c'est pas seulement qu'il y a des hommes et des femmes dans la société, c'est aussi qu'il y a des mots masculins et des mots féminins. Tout le monde le sait, tout le monde sait que ça n'a rien à voir en fait, hein, et que c'est pas parce qu'on dit la chaise qu'on la féminise, ou le mur qu'on le masculinise. Ça, pour ça, c'est clair pour tout le monde. Donc tout va bien, les linguistes ont bien veillé à faire la distinction entre le sexe des personnes et le genre grammatical. Ça va. Deuxième point sur lequel il faut bien qu'on s'entende, c'est que, en réalité, toute personne qui attente à la langue est fasciste, en fait. C'est les fascistes qui attendent à la langue. Donc on ne doit pas attenter au langage. On doit le maintenir sacré, le préserver. Il y a un esprit du français auquel on ne doit pas attenter. D'accord ? Ça, c'est les points sur lesquels tout le monde est d'accord. Après, moi, ce que je pense, c'est que tout ça, c'est sans doute très important, mais c'est une vaste blague. C'est-à-dire, le fait que le genre grammatical des mots n'ait rien à voir avec le sexe des individus ou des personnes, c'est une blague. Bien sûr, on dit la lune en français, der Mond en allemand, donc on passe du féminin au masculin, on dit le soleil en français, on dit die Sonne en allemand, donc on passe du masculin au féminin, donc c'est arbitraire, hein, bien sûr. N'empêche que, en français, je parle uniquement de la langue française ici, en français, on a deux genres grammaticaux comme on a deux sexes. Et ça, on ne peut pas s'empêcher que ça travaille nos manières de voir et nos manières de penser. D'accord ? Donc ça, c'est ce que les linguistes ont appelé la sexuissemblance, c'est-à-dire le fait que quand on parle de quelque chose au masculin, on a tendance à le masculiniser, et quand on parle de quelque chose au féminin, on a tendance à le féminiser. Donc, dans le livre, je m'amuse avec la littérature enfantine pour dire, vous prenez une série de livres qui s'appellent « Les petites bêtes », hein, donc vous avez « Grâce la limace »,« Léon le bourdon », etc. Vous les prenez tous, et en fait, à chaque fois, le nom de l'animal, le bourdon, la limace, etc., détermine le sexe qu'on attribue à l'animal. Donc, très clairement, la souris, ça va être une petite créature gracile qui tricote. Le rat, ça va être un type atroce qui traîne dans les égouts, d'accord ? Donc, on nous dit que le genre grammatical n'a rien à voir avec le sexe des personnes, n'empêche qu'on n'arrête pas de faire des parallèles avec tout ça. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on doit faire ? Une première manière, c'est de dire ben, on va féminiser un certain nombre de choses qui sont importantes, c'est-à-dire quand une femme a des postes de responsabilité, on ne va pas l'appeler le président ou le directeur, on va faire un effort pour dire « Hé !» L'autorité, ça existe aussi au féminin, on peut dire la directrice ou la présidente, d'accord ? Déjà là, on a des problèmes, c'est l'affaire Sandrine Mastier à l'Assemblée nationale, les problèmes qu'elle a eus pour se faire appeler Madame la présidente, parce que toute l'Académie française vous le dira, Madame la présidente, ça ne désigne pas une femme qui est présidente, ça désigne la femme d'un président, d'accord ? Donc, c'est comme ça. La présidente de Tourvel, elle n'était pas présidente dans les Liaisons dangereuses, elle était juste la femme du président. Bon, voilà. Donc, une première manière, c'est ça, on féminise. Moi, ce que je propose, c'est de travailler sur des formules, des tournures épicènes. Épicènes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des tournures qui existent, qui ne changent pas selon le genre, en fait. Donc, des adjectifs qui ne s'accordent pas, par exemple. Il y en a... nécessaire, obligatoire, diplomatique, etc. Ça, c'est des mots, vous voyez ? Donc, c'est travailler sur ce type de mots-là. Certains vont plus loin que moi, certains disent qu'il faut, en fait, justement, supprimer le genre des mots, remplacer par un truc comme « the » en anglais, qui serait universel. Hein. Pourquoi pas ? Enfin, j'en sais rien, j'en suis pas là, c'est pas ça dont je parle dans le livre. Ce que je dis juste, c'est il y a quelque chose d'important qui se joue autour de la question de la langue, et ça mérite qu'on y pense. Voilà. Je suis pas, encore une fois, les académiciens pensent, formulent, transmettent une sorte de vision de la manière dont on doit traiter le genre dans le langage. En fait, cette manière-là est une histoire récente de la langue française. Les historiennes de la langue ont montré que ça s'est joué au XVIe siècle, au XVIIe siècle, dans une sorte de rigidification, puis au XIXe siècle, avec l'établissement de cette règle, le masculin l'emporte sur le féminin, alors qu'on trouve encore chez Racine, au XVIIe, des accords comme des accords par proximité, c'est-à-dire en fait on n'accorde pas en fonction, dès qu'il y a un mot masculin, on mettra l'adjectif au masculin, mais on accorde l'adjectif en fonction du dernier mot qui est énoncé, par exemple. Donc l'accord par proximité, c'est une manière dont l'accord se faisait en français, qui a été interdite par les grammaires rigidifiées. Voilà. Mais dire que ça, dire que enseigner ou seriner à tous les enfants dès l'enseignement primaire, que ça, ça n'a aucune incidence, dire que le masculin l'emporte sur le féminin, ça n'a aucune incidence sur la manière dont les gens voient le monde après, ben, je pense qu'il y a une vaste blague là. Voilà.
Dans votre livre, il y a des détracteurs du héros qui expliquent que supprimer le sexe civil, ça va mener à une uniformisation de tout le monde. Mais Ulysse Rivneuve, il explique que c'est tout le contraire. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi ?
C'est le cœur de l'affaire, en fait. Hein. En gros, dans le discours le plus évident, hein, la différence des sexes, c'est tellement important que si on l'efface de l'état civil, les individus vont... Ben voilà, on va finir tous unisexes ou androgynes. Voilà. Ça, c'est ce qu'on nous dit. À ça, il y a plusieurs manières de répondre. La première manière, la plus simple, c'est que finalement, il ne s'agit que du sexe d'état civil. Donc, c'est juste... Je ne vais pas renverser l'ordre de la société. Tout le monde aura le droit de mettre des talons hauts demain, comme aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'interdire les talons hauts. Voilà, rassurez-vous. Peut-être à la limite de les universaliser, de les autoriser à tout le monde, peut-être, ça à la limite. Mais il ne s'agit pas d'interdire quoi que ce soit. Il s'agit juste d'une mesure de simplification administrative qui consiste à dire on va juste supprimer cette mention des actes d'état civil et donc des papiers d'identité parce que ça ne sert à rien au final. D'accord ? Donc ça, c'est juste le niveau zéro, dire ça sert à rien. Et à ce niveau-là, on va dire, regardez par exemple, la race ne figure pas, la religion ne figure pas à l'état civil, et pourtant, ça n'empêche pas les religions de fleurir dans leur multiplicité chatoyante, les identités racisées de fleurir dans leur multiplicité, donc... À quel moment est-ce que le fait que la race ou la religion ne figure pas à l'état civil a empêché qui que ce soit d'inventer, a conduit à une quelconque uniformisation ? Donc, c'est le premier point, je veux dire. Simplement au niveau de l'état civil, s'il ne s'agit que de réviser l'état civil, ben, ça peut très bien ne produire aucun effet. Hein, aucun effet, c'est tout à fait possible. Mais là, ce qui m'intéresse ici, c'est quoi ? C'est... Pourquoi alors, s'il s'agit juste d'une simplification administrative, ça suscite immédiatement autant de sarcasme, autant d'opposition, autant de crispation ? Ça suscite des sarcasmes parce que moi je suis rien du tout, donc le fait que je le dise n'a pas d'incidence sur l'ordre du monde tel qu'il va, donc ce n'est pas une menace pour les individus. Mais imaginez un Premier ministre qui dirait... Et en fortiori, un président de la République qui dirait « Demain, nous allons effacer les sexes de l'état civil, mais rassurez-vous, ça n'est qu'une mesure de simplification administrative. » Mais je pense qu'il y aurait un certain nombre de réactions qui montrent qu'en fait, que ce problème tout à fait secondaire de la présence d'une mention à l'état civil n'est pas du tout secondaire, mais véritablement prend les gens aux tripes de leur identité. Donc, si vous voulez, on est... On ne sait pas ce qui va se passer si on fait ça. Mais, en tout cas, on voit que ça prend les gens aux tripes, cette question de l'identité et de la mention du sexe. Pourquoi est-ce qu'on fétichise cette mention ? Pourquoi est-ce qu'on tient absolument à ce que ça y figure ? Aujourd'hui, il y a... En fait, dans les travaux préparatoires que vous évoquiez, qui ne figurent pas dans la version finale du livre... J'ai regardé, je suis allé voir un notaire, j'ai demandé, est-ce que ça changera la pratique des notaires de savoir si le sexe, de ne plus connaître le sexe des individus, que ça ne figure plus sur les actes. Non, ça ne changera rien, m'a-t-il dit. Je suis allé voir des avocats, je leur ai demandé comment ça se passerait pour eux. Et en fait, on regarde le droit. Et en fait, dans le droit du 19e, il y a des traitements différenciés des hommes et des femmes. D'accord ? Par exemple, l'âge légal pour le mariage, dans le code civil, c'était... des bêtises, peut-être 15 ou 16 ans pour les filles, 18 ans pour les garçons, vous voyez, il y avait tout ce genre de mentions dans toutes les catégories du droit. L'adultère, s'il est commis par un homme, il n'est pas grave, mais s'il est commis par une femme, il est plus grave. D'accord ? Donc il y avait des traitements différenciés dans le droit pour les individus en fonction de leur sexe. Tout ça, ça a disparu aujourd'hui. Donc l'incidence de la disparition du sexe d'état civil pour la manière dont le droit traite des questions, elle est neutre, quoi. Enfin, elle est nulle, ça n'aura pas d'un... Enfin, le droit va vers l'indifférenciation des individus, c'est-à-dire traite les individus comme des individus plutôt que comme des hommes ou des femmes. Aujourd'hui, de plus en plus, on le voit dans les articles, le droit du travail, par exemple, toutes les prescriptions qui différenciaient les hommes et les femmes dans le droit du travail ont été supprimés par des mentions successives de la communauté de l'Union européenne. Enfin, donc tout ça, ça... En fait, le droit lui-même va vers ça. Donc l'idée que ça va, le monde va s'effondrer, je ne sais pas. Il y a une question que vous m'avez posée à laquelle je n'ai pas répondu.
En fait, c'était aussi pour la notion de liberté. Les gens seraient peut-être plus libres s'ils n'avaient pas les... contraintes liées au sexe.
De fait, je ne dis pas du tout que tous les corps sont identiques, hein, c'est évident. Je ne dis pas non plus que tous les désirs sont identiques. On a des désirs différenciés, hein, on ne désire pas tous les mêmes personnes, et donc pas non plus nécessairement le même sexe d'individus. Donc tout ça... Je ne nie pas la diversité des individus, ça serait complètement absurde. En revanche, ce que j'observe, c'est que dès l'enfance, on se pense obligé d'insinuer aux individus humains un message qui est « Voici comment tu dois représenter ton sexe. » Et de ce point de vue-là, on voit bien... que l'insistance avec laquelle la société répète ce message aux enfants, puis aux adultes, indique bien que finalement, il n'y a rien de naturel là-dedans. Parce que si c'était naturel, on laisserait la nature se faire, on laisserait les processus naturels se réaliser. Donc, le fait que la société ait besoin de rappeler en permanence aux enfants, aux adultes, la manière dont ils doivent présenter leur genre, en fait, hein, indique bien que c'est un sujet, c'est quelque chose d'extrêmement labile, quelque chose qui pourrait disparaître du jour au lendemain si, tout à coup, le système de prescription s'allégeait, en fait.
Ben, merci pour vos réponses. Peut-être avant de passer aux questions du public, est-ce que vous avez une réaction sur l'actualité, sur les attentats à Paris?
Je pense... Bon, d'abord, moi, j'ai passé le week-end au lit, hein, pratiquement, enfin, assez abasourdi. Simplement, je pense que le travail des philosophes, c'est un travail de définition des termes. C'est-à-dire un travail de réflexion qui, encore une fois, fait un pas de côté par rapport à tout ce qui est dit. Parce que de toute façon, ce n'est pas les philosophes qui vont faire la politique sécuritaire de la France ou la politique militaire de la France. Mais notre travail, je crois, c'est un travail d'analyse des termes. Donc, voilà, ce qui se passe, comment est-ce qu'on doit le nommer, par exemple? Est-ce qu'on doit le nommer la guerre, comme c'est beaucoup dit? Est-ce qu'on doit le nommer du banditisme ou des brigands? Voilà. Est-ce qu'on a affaire à des brigands? Voilà. Ça, c'est des questions que je pense on peut se poser. Rousseau, dans le contrat social, dit en fait, la guerre n'existe que entre des États. Voilà. Quand un individu ou des individus prennent des actes, commettent des actes violents, tuent, capturent, kidnappent, etc., tout ça, il dit, ils ne sont pas en guerre contre la société, ce sont des brigands. Voilà, c'est le contrat social, chapitre 1-4, si je me souviens bien. Voilà, donc je crois qu'il y a dans la philosophie, dans l'histoire de la philosophie, des ressources pour être précis sur ce dont on parle et éviter les formules toutes faites. Voilà. Est-ce qu'il s'agit de fous ? Est-ce qu'il s'agit d'individus irrationnels ? Est-ce qu'il s'agit d'idéologie ? Voilà. Il y a énormément de termes ici qui sont convoqués, usés, utilisés à tort et à travers, et sur lesquels je pense que les philosophes doivent mener un travail d'élucidation, en fait. Pas pour servir nécessairement les politiques, pas pour prescrire des directions, mais pour ramener à la méfiance par rapport à ces mots qui sont assénés, en fait. Ensuite, ça c'est un élément, et l'autre élément, c'est, voilà, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure concernant la manière dont, encore une fois, une certaine image ultra-masculinisée, ultra-militarisée, ça m'avait déjà frappé beaucoup en janvier, quoi, cette idée des individus sans état d'âme et parfaits, en fait, qui traversent l'événement, qui traversent la ville. Ce modèle-là de la masculinité qui est véhiculé par ces personnages donc terroristes ou criminels, ou etc., je pense qu'il y a un travail de déconstruction à faire là-dessus aussi. Et là, on rejoint plus la perspective du genre. Voilà, mais bon, tout ça, ce sont des rationalisations ou des ratiocinations sur mon propre sentiment d'impuissance. Voilà.
Merci pour vos réponses.